Radio Clash, une émission réalisée par les jeunes de l'Entrelien. Et ouais, on a tous quelque chose à dire.
Mourir à petit feu, mourir à petits pas, l'amour c'est sûrement ça. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a même pas de fumée. La pire, la plus sordide, la plus morbide, c'est être dépendante affective.
Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Radio Clash, la Radio Clash, l'émission des jeunes de l'Entrelien. Alors, pour cette émission du mois de juin, les jeunes de l'Entrelien ont choisi de vous parler du sujet de la dépendance, comme vous l'avez entendu dans ce petit extrait d'un poème de Françoise Firenze. C'est ça, Ambre, hein ?
Oui.
Ouais. Mais donc, on va parler de toutes les dépendances. On parle de dépendance, on parle parfois d'assuétude. On va en parler avec notre invité du jour, Edgar Schott. Bonjour Edgar.
Bonjour Damien.
Voilà, qui va se présenter dans un moment, et avec les jeunes qui sont autour de la table. Peut-être vous pouvez faire un petit tour de table, chacun donne son prénom, comme ça on voit qui est là. On commence à ma gauche avec...
Saskia.
Saskia, peut-être tu dis ton âge, comme ça vous...
J'ai 14 ans.
Ok. Evie,
j'ai 13 ans.
On t'entend pas bien.
Evie, j'ai 13 ans.
Ok.
Roxane, j'ai 18 ans.
Alors à la technique, nous avons Tristan et nous avons Vincent. Et puis...
Morgane, 17 ans.
Manon, 14 ans.
Ambre, 15 ans.
Voilà, et nous avons Déborah aussi qui est là. Alors, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On propose à notre invité de se présenter peut-être. Donc Edgar, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et expliquer un peu en quoi consiste votre métier ?
Edgar, 43 ans. Oui, je m'appelle Edgar Schott. Je travaille pour une association qui s'appelle Prospective Jeunesse, qui a différentes activités en lien avec les drogues. Donc, moi, à titre personnel, je m'occupe de publier la revue de l'association qui s'appelle Drogue, Santé, Prévention, qui paraît tous les 3 mois. C'est un trimestriel, donc. Et puis, on organise également des consultations avec des psys pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction ou bien dont l'entourage pourrait trouver qu'il y a autour d'eux des personnes qui ont des rapports problématiques avec des consommations de substances on y reviendra, hein, parce que l'addiction, c'est un phénomène pluriel. Ça peut être un rapport aux écrans qui est un peu problématique. Et on organise aussi des formations et des accompagnements à destination de ce qu'on appelle des adultes relais, c'est-à-dire des adultes qui travaillent avec des jeunes qui peuvent, le cas échéant, avoir des problèmes en termes de consommation et de substances.
Ok, super. Ben, on va donner la parole un peu à tout le monde, si possible, parce que c'est l'idée de faire un débat aujourd'hui. Une première question, Saskia.
Quand on vous dit le mot addiction, à quoi ça peut vous faire penser ?
Qui veut répondre en premier ? Morgane.
Alors moi, personnellement, je pense que c'est une chose dont on peut plus passer, comme l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, dont on en a besoin tout le temps.
Mmh. Quelqu'un d'autre ? Manon.
Pour moi, c'est un peu la même chose que Morgane. C'est quelque chose qu'on a besoin quotidiennement et qui est pas forcément, enfin, qui peut être néfaste pour nous.
Mmh, qui peut être néfaste. Roxane, tu dirais quoi,
hein? Bah, à peu près la même chose. C'est pas forcément quelque chose de bien. Ça peut détruire la santé, tout ça.
Mmh, donc il y a l'aspect de danger pour la santé. Ouais. Ambre.
Bah, les autres ont à peu près résumé l'idée que je me fais aussi de l'addiction, donc voilà.
Ok. On va peut-être se tourner du coup vers Edgar, notre spécialiste. Ce serait quoi votre définition de l'addiction en tant que spécialiste ?
spécialiste, c'est un grand mot, hein, d'autant qu'il y a beaucoup de façons de considérer les addictions. C'est pas une question qui fait consensus sur laquelle tous les spécialistes, comme tu m'appelles gentiment, sont nécessairement d'accord. J'ai pas nécessairement grand chose à ajouter à ce qui a été dit, si ce n'est que c'est un terme qui est connoté négativement, hein, addiction, et donc c'est pas uniquement quelque chose dont on ne peut pas se passer, parce que l'oxygène, par exemple, on peut pas s'en passer, et on va pas dire qu'on a une addiction à l'oxygène, hein, c'est pas considéré comme tel, l'eau, même chose, mais en général, on considère qu'on parle de quelque chose dont on ne peut pas se passer, qu'il y a vraiment un élément psychoactif, c'est-à-dire qui modifie notre état de conscience, nos perceptions, le fonctionnement de notre cerveau, et dont l'abus peut être problématique, peut entraîner toute une série de conséquences négatives. Et donc, en général, on considère que l'addiction ou l'assuétude, c'est un terme qu'on utilise qu'en Belgique, en fait. Si vous utilisez le terme assuétude en France, ils ne sauront pas de quoi on parle. On considère que c'est la rencontre d'une personne, d'une substance et d'un contexte. Hein, par exemple, la même substance ne va pas provoquer le même type d'addiction, ou pourrait même ne provoquer aucune addiction chez des personnes différentes. C'est assez évident avec l'alcool, qui est la drogue sociale par excellence. L'alcool, il y a des gens qui développent un rapport très problématique avec cette substance, hein, qu'on finit par cataloguer d'alcoolique, donc ça peut détruire une partie de l'existence de l'entourage, et puis il y a une grande partie de la population qui consomme de manière plus ou moins régulière de l'alcool sans que ça n'entraîne le moindre préjudice, le moindre dommage.
Quelles sont les addictions les plus fréquemment rencontrées ?
Alors en termes de substances, là je viens de le dire, la drogue qui est acceptée socialement dans nos sociétés, c'est l'alcool. Et c'est de manière très claire la drogue la plus consommée, et qui provoque le plus de dégâts, et en même temps qui fait l'objet de la plus grande tolérance. Hein, elle n'est pas interdite légalement. Vous n'allez pas en prison pour vente d'alcool ou consommation d'alcool, alors que ça peut être le cas pour d'autres substances. Et la deuxième, de façon très nette, qui n'a pas du tout le même statut, c'est le cannabis, qui fait l'objet d'une consommation relativement importante et répandue, tout en étant interdite pénalement. Donc personne ne va en prison pour simple consommation de cannabis, mais disons que ça peut être considéré comme une circonstance aggravante pour toute une série de situations où vous avez affaire à la police ou au magistrat. Et alors ensuite, de façon beaucoup plus marginale, avec un pourcentage de la population beaucoup plus faible qui est concerné, vous avez la cocaïne, ce qu'on appelle les drogues de synthèse, donc Exta, MDMA, etc., l'héroïne, et puis toute une série de nouvelles drogues qui apparaissent et disparaissent un peu en fonction des modes. Ça, c'est pour les substances, hein, vraiment.
Parce qu'après, il y a autre chose que des substances.
Oui, typiquement, nous, ce sur quoi on travaille, c'est vraiment les substances et les écrans. Mais après, on peut en effet considérer qu'il y a toute une série d'autres choses auxquelles on est dépendant. On est tous dépendants de plein de choses. L'indépendance, ça n'existe pas. Hein, on peut essayer d'avoir comme objectif d'être autonome, c'est-à-dire qu'on a à peu près géré nos dépendances. On n'a pas une dépendance qui est problématique, qui prend toute la place dans notre existence, qui écrase tout le reste. On a une série de... Voilà, on est dépendant de ses amis, on est dépendant de sa famille, on est dépendant d'un certain type de plaisir que nous provoque, je ne sais pas moi, le sport, la lecture, regarder des séries, etc. Mais disons qu'une vie autonome est une vie dans laquelle on sent qu'on arrive à jongler parmi ces dépendances et qu'il n'y en a pas une qui écrase toutes les autres, qui s'impose et qui rend notre vie un peu unidimensionnelle.
J'ai envie de vous faire réagir par rapport à l'alcool quand même si on a beaucoup d'autres sujets à aborder, mais vous en pensez quoi par exemple, du fait que si on ne boit pas, on est considéré un peu comme le rabat-joie, etc. Manon, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que oui, ça se passe, enfin, ça se passe comme ça, en fait. Et j'en ai déjà eu l'expérience. Et je trouve ça triste parce que c'est vraiment une génération d'incitation. Et ouais.
Et t'as réagi comment quand on a eu l'expérience?
J'ai déjà eu l'expérience dans les deux sens, donc autant ça aurait, enfin, c'est moi qui aurais pu proposer à quelqu'un, autant des gens m'ont déjà proposé. Et enfin, dans les deux cas, c'est différent parce que bon, quand c'est moi qui propose, genre c'est pas dans ce but
de faire du tort, quoi.
De faire du tort, ouais. Voilà, c'est et genre je pense, enfin, c'est contrôlé en fait. Genre, je vais pas être dans l'abus, etc. Donc c'est vraiment juste pour, comme vous dites, se lâcher un peu, etc. Et pour être dans l'ambiance. Et ouais, dans l'autre cas qu'on me propose de l'alcool, par exemple, pour moi, c'est plus compliqué parce que j'ai du mal à refuser, justement pour pas avoir cette place de la personne qui ne fait jamais rien, etc. Et être un peu rejetée du groupe à cause de ça. Mmh. Donc ouais, voilà.
Quelqu'un veut surenchérir par rapport à ça?
Moi, je pars du principe qu'on n'a pas besoin de substances pour être dans la fête. Parce que je pense que si on me connaît personnellement, on sait très bien que je suis un peu folle, donc je n'ai pas besoin de substances ou autre. Mais c'est vrai que personnellement, je ne vais pas refuser un verre ou quoi.
Mmh. Donc, ok. Bah, on va écouter... Justement, une interview que tu nous proposes aujourd'hui, Morgane, tu peux nous dire de quoi il s'agit, peut-être toi-même?
C'est l'expérience d'un alcoolique qui s'appelle Pierrot et qui nous a donné son témoignage et son parcours et comment il a géré.
Voilà, et il fait partie des alcooliques anonymes qui sont en général assez bien connus du grand public. On écoute ça tout de suite.
Bonjour.
Bonjour Morgane, bonjour Damien.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Je m'appelle Pierrot, je suis alcoolique. Je fais partie du mouvement des alcooliques anonymes.
Et que faites-vous dans la vie?
Retraité.
Comment avez-vous découvert les AA?
Tout simplement en étant dirigé par mon neuropsychiatre à l'hôpital, qui avait découvert donc, que j'avais une consommation quand même assez énorme de boissons alcoolisées quotidiennes. Et donc, il m'a dirigé vers le bureau info-alcool de l'hôpital. Et là, j'ai appris avec ce médecin que j'étais alcoolo. Hein. Et puis après, avec ce bureau info-alcool, j'ai appris des tas de choses sur la maladie en elle-même, comment s'en sortir, que c'était une addiction, que c'était une drogue, l'alcool, etc., etc. Et en même temps, ils m'ont dirigé alors sur une réunion qui avait lieu à l'hôpital le soir même, des alcooliques anonymes. Je m'y suis pointé, et avec ceux qui m'ont donné la première fois, je suis resté, j'y suis toujours.
C'était il y a combien de temps, du coup?
À peu près 39 ans.
Et pouvez-vous nous expliquer votre parcours?
Donc j'ai commencé à boire à 16 ans, parce que j'étais rentré à l'armée, qu'à l'école militaire, il y avait des gars le soir à la cantine. Pour me socialiser avec ce petit club-là, il fallait boire 3 bières, donc j'ai bu mes 3 bières. Les 3 premières, et donc je suis rentré fin sous dans ma chambre, reconduit. Et 10 ans plus tard, quand j'ai dû arrêter, c'est tout simple, j'en buvais plus de 10 fois plus par jour. Donc, j'étais arrivé à un point où j'avais détruit quand même pas mal de choses. Si je prends le milieu professionnel, ce qui m'a fait arrêter, c'est mon patron qui m'a appelé une ultime fois, je vais dire, parce que c'était pas la première fois, en me disant « bien, je te fous dehors, ou bien tu te fais interner ». Donc, j'avais déjà cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, je suis arrivé à l'hôpital, comme je disais tantôt, centre de crise, check-up, etc. Et là, on m'annonce que j'ai une stéatose. Donc, la stéatose, c'est le foie qui gonfle, qui double de volume, qui ne filtre presque plus rien. Et le docteur m'a dit, vous avez 50% de chance de vivre ou 50% de chance de mourir. J'ai 26 ans à cette époque-là, je tombe de haut, c'est la deuxième épée de Damoclès, et c'est pas rien pour la profession, c'est pour ma vie. Donc là, j'arrête de picoler. Obligé, puni pour moi, en me disant, bon, ben, comment on fera ça, réparer, ça ira mieux. Au niveau familial, je veux dire, mes parents et mes frères et sœurs, ben là, c'était un peu différent. J'étais devenu agressif, méchant, cynique. Plus du tout bon vivant, le mouton noir de la famille. Si je prends le côté alors financier, ben, boire plus de 30 consommations par jour, il faut quand même se les payer. À un moment donné, ça ne suivait plus, donc j'ai commencé à taper les copains. Cette source n'a pas été longtemps... Elle était tarie très vite, je veux dire, parce que, bon, ben, d'abord, je mentais en disant que je les allais rembourser. Eux, ils savaient très bien ce que je leur devais, mais moi, plus déjà. Un autre aspect, c'est que, après, ben, j'ai fait des prêts dans une banque, et puis dans une autre, et puis à la troisième, on m'a dit, vous n'aurez plus d'argent, puisque vous ne remboursez déjà pas les deux autres premiers prêts. Donc, après, ben, c'était simple. Comme j'avais plus d'argent, ben, j'ai volé mes consommations directement dans les magasins. Ou bien voler les gens pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter. Ce qui m'a amené, pas vu, pas pris, moi j'ai été vu, j'ai été pris, donc les problèmes judiciaires, alors, se sont en suivi. Et donc, quand je faisais un peu le tour de ma vie, il ne restait plus que le social, et le social, ben, c'était simple, j'étais complètement isolé, je me foutais bien tout ce que l'autre pouvait raconter, j'avais raison, et... J'étais tout à fait égoïste. On ne voulait d'ailleurs plus sortir avec moi parce qu'on se terminait en bagarre ou cabanon, quoi. Voilà, et c'est quand j'ai fait cet état des lieux avec le gars là au bureau à Falcon, je me suis dit, oui, j'ai quand même un problème, alors que jusque-là, je croyais qu'on contrôlait ma vie. Les jeunes disent maintenant, je gère, mais je ne gérais plus rien du tout. Il fallait surtout changer ce qu'il y avait à l'intérieur du cerveau, donc mon attitude morale et mentale face à l'addiction, quoi. Sinon, je... Comme toute addiction, sinon je ne me serais jamais sorti.
Quand avez-vous remarqué que vous aviez besoin d'aide?
J'étais en plein déni quand je suis arrivé dans ce bureau info-alcool et chez les alcooliques anonymes. Pour moi, j'étais trop jeune pour être alcoolo. Hein, donc, pour moi, j'avais absolument besoin d'aucune aide au départ. Je subissais d'ailleurs le fait que je devais aller chez le médecin, etc., chez le neuropsychiatre. Et donc, je me sentais tout à fait puni.
Et qu'est-ce que cela vous a apporté?
Un changement complet dans ma vie. Et comme je disais tantôt, mon attitude morale et mentale par rapport à l'alcool, je n'avais jamais remarqué jusque-là que je collais l'alcool à chaque activité de ma vie. Dans le sens où si j'allais à une naissance, je pensais tout de suite au champagne, et si j'allais à des funérailles, je pensais tout de suite au cognac dans le café, quoi. Ça, il a fallu que je me sorte de cette addiction, parce que je ne savais même pas que j'agissais comme ça. Et ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir des pensées beaucoup plus philosophiques que ce que j'avais avant, et d'apprécier cela, et de découvrir que je me sentais mieux dans ma peau, et que ça. Et continuer alors à échanger avec les contacts humains, avec les autres, de façon à pouvoir alors me sortir l'alcool de ma tête. Mais je suis toujours alcoolique. J'ai dit, je m'appelle Pierrot, je suis alcoolique au début, pas j'étais.
Ouais, ouais.
Parce que c'est une addiction, donc c'est une maladie incurable, hein.
C'est ça que j'allais vous demander, comment vous le vivez aujourd'hui, enfin, ça reste un combat aujourd'hui là.
Oh non, ça reste un combat, après autant de temps, il y a déjà longtemps que je serais dans le trou et que je suis commencé à picoler. Non, ça devient, je ne dirais pas une habitude, mais c'est très gai à partir du moment où on sort des affres du début, du manque, de l'angoisse, de la boule au ventre et la boule dans la gorge, etc., ne pas savoir parler, ne pas savoir s'exprimer, dire ce qu'on a, ne pas savoir qui on est ou quoi. Quand j'ai découvert ma bulle complète, où j'étais faible, où j'étais fort, etc., alors j'ai pu continuer à avancer. Alors être soulagé aussi au fur et à mesure que j'avançais, j'avais plus des envies d'alcool pressantes, énormes et régulières, très rapprochées. Ça s'est beaucoup espacé, c'était beaucoup moindre, et pour finir, elle se cache maintenant, parce que j'ai encore des pensées alcool, mais elle se cache différemment.
Pouvez-vous nous expliquer
qui est
le fonctionnement du AA?
Ben, le fonctionnement est simple, c'est un groupe de paroles où personne n'a tort, où personne n'a raison, chacun explique son expérience, son petit bout de vie, son problème actuel, ou sa joie, ou sa peine. Donc il y a des tas de choses qui peuvent arriver. Et alors, on en discute et on dit comment chacun, s'il a vécu l'expérience, ben, à essayer de faire, on s'en est sorti.
Et pensez-vous un jour reboire de l'alcool, mais que à des occasions, par exemple un verre ou à vous limiter?
J'ai envie de te dire, arrête tes conneries. je sauve ma peau tous les jours en arrêtant de picoler. Je suis alcoolique, donc je suppose que vous avez déjà vu certains films, vous avez déjà lu de la littérature là-dessus. Une addiction, c'est une solitude. Si je prends un, les autres vont suivre. Moi, si je bois un verre, j'amorce la pompe du tonneau. Hein. Et j'en ai eu plein, plein, parce qu'on n'a pas la panacée, on n'a pas... Tous ceux qui rentrent en AA n'arrêtent pas de picoler. Hein. Donc, on n'a pas un taux de réussite incroyable. Moi, je fais partie des gagnants, mais j'en ai plein qui sont venus me dire « j'ai rechuté, je suis plus loin qu'avant, j'ai rechuté après 23 ans, etc. » Donc, ça me conforte dans l'idée que j'ai choisi le bon moyen de m'en sortir tous les jours, tous les jours.
Eh ben, tout grand merci en tout cas.
Au revoir Damien, Morgane, Saskia et Roxane.
Au revoir.
Merci beaucoup, merci. Au revoir Pierrot, à bientôt.
Oui, au revoir.
Voilà, merci Morgane pour ce témoignage que tu as fait donc par téléphone de Pierrot. Tu peux nous donner un petit peu tes impressions sur cette tranche de vie, hein, quand même très très forte qu'on a.
Moi je trouve ça incroyable son parcours déjà, parce qu'il a quand même eu la force de se battre. Il y en a qui auraient peut-être abandonné ou autre. Il a quand même pris ce qu'on lui a conseillé. Comme les AA, et du coup, voilà. Mmh.
Quelqu'un d'autre veut réagir? Je sais qu'il y en a qui étaient là quand on a écouté Saskia, quand on a entendu le témoignage de Pierrot. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'entendre ça?
J'étais assez bouleversée parce que j'ai connu plusieurs personnes qui s'en sont pas sorties, sont toujours dedans. Et franchement, je suis assez heureuse que des personnes arrivent à s'en sortir.
Bon.
Moi, je voulais peut-être.
Ouais, Edgar, oui.
Relever deux choses. La première, qui est vraiment commune à presque toutes les situations d'addiction, mais en particulier à l'alcool, dans la mesure où. Pour la troisième fois, c'est vraiment la drogue la plus socialement tolérée, c'est le déni. C'est-à-dire que les gens disent « mais non, mais tout va bien ». Il faut vraiment, en général, beaucoup de temps et beaucoup de proches qui s'inquiètent. Et ça demande un certain courage de la part des proches. Je ne sais pas si vous avez un ami qui a un problème d'alcool, allez lui dire « c'est risqué de se prendre des remarques négatives en réponse ». Donc il y a vraiment toujours ce déni au départ qu'il faut surmonter. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la vision des alcooliques anonymes, c'est une vision, mais qu'elle n'est pas nécessairement partagée dans l'ensemble du secteur, cette idée d'abstinence totale. Je n'ai pas d'avis en particulier, je ne vais pas dire c'est bien, c'est mal, mais disons qu'il y en a d'autres, un peu dans la perspective de ce que je disais, qui est que de toute façon, nous avons plein de dépendances. On peut aussi avoir des perspectives où quelqu'un qui était complètement accro à l'alcool et chez qui l'alcool provoquait tous les ravages qu'on a entendu décrit par Pierrot, retrouve une consommation raisonnable, raisonnée, sans abstinence totale. Les deux situations existent, et donc la vision d'abstinence totale plus jamais peut convenir dans certaines situations et moins dans d'autres. Donc c'est un parcours qui là a l'air, après des débuts extrêmement difficiles, de se terminer bien, mais il y a d'autres façons de bien terminer sans nécessairement être dans l'abstinence totale.
Oui, Manon, tu veux réagir?
Je voulais juste réagir au témoignage de Pierrot encore. Je voulais juste dire que je pense que même pour la génération de maintenant, ce qui est le plus dangereux, c'est que ça peut commencer de rien du tout, comme il l'a dit lui-même, qu'il a commencé avec 3 bières et qu'après il est devenu dépendant pendant une vingtaine d'années. Et je pense que c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte nous-mêmes. Mmh. Et donc,
Ok, merci Manon.
Pouvez-vous nous expliquer ce que cela provoque exactement au niveau neurologique? Quels phénomènes cela crée dans le cerveau.
Donc pour les addictions en général, question pour Edgar.
Alors, je ne suis pas neurologue hein, ni neuropsychiatre, mais donc ça dépend évidemment des substances. L'alcool, typiquement, a un effet qu'on appelle anxiolytique, hein, qui est l'effet qu'on prend quand on, enfin, qu'on obtient quand on prend des médicaments anxiolytiques, donc typiquement le Xanax, les benzodiazépines. Donc c'est un effet calmant, apaisant.
Déstressant,
ouais. Voilà. Mmh. Et c'est même du point de vue strictement de anxiolytique, c'est un des plus efficaces. Donc là, c'est d'une certaine façon, c'est le drame de l'alcool, c'est que ça marche pour l'effet qu'on cherche. Après ça, donc je reste sur l'alcool. Donc à court terme, sur le moment même, ça a cet effet anxiolytique, mais sur le long terme, il y a un effet dépresseur. C'est-à-dire que ce que vous pouvez un peu sentir hein, quand vous prenez de l'alcool et un peu trop d'alcool le soir, bah, vous êtes calme, vous êtes détendu. En tout cas, vous êtes détendu, désinhibé. Il y a une série d'angoisses qui ne sont plus là. En général, le lendemain matin, vous êtes un peu plus maussade. Enfin, dans le pire des cas, vous avez vraiment mal à la tête.
On appelle la gueule de bois.
Voilà, la gueule de bois. Mais ça va de pair avec une humeur plutôt négative, dégradée, etc. Et on constate sur le long terme que c'est quelque chose qui se généralise, et pas seulement au matin. Quoi, et donc là, on entre vraiment dans un cercle vicieux où toute la journée... On a une humeur maussade et difficile, et le soir l'alcool vient soulager ça en désinhibant, mais en reprenant trop le soir, on augmente les problèmes du reste de la journée et on entre dans un cercle vicieux. Bon, ça c'est très vite dit pour l'alcool. Vous en avez d'autres qui jouent beaucoup plus sur donc ça joue sur ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, donc qui facilitent la transmission de certaines substances qui provoquent des états différents. La cocaïne typiquement joue sur la dopamine, qui est l'hormone de la récompense et de l'excitation. Donc ça, voilà, chaque substance agit de manière spécifique, et on sait bien que les gens vont pas prendre de la cocaïne pour obtenir les mêmes effets que l'héroïne, pour obtenir les mêmes effets que l'alcool, etc. Et donc on voit bien ce que ça produit neuronalement hein, quand on fait des imageries cérébrales, etc. Mais tout ça est quand même travaillé par des représentations. Ce n'est pas uniquement un phénomène biochimique. C'est aussi, quand vous prenez de l'alcool, vous vous attendez à être apaisé, détendu, et donc vous l'êtes. Il y a quelque chose de quasi autoréalisateur. Hein. Vous ressentez les effets que vous escomptez et que vous attendez. Mais donc, il y a clairement des effets neurologiques propres à chaque substance.
Merci Edgar. À présent, on va écouter une petite chronique qui s'intitule « C'est quoi la drogue ?» qui a été réalisée par, rappelez-le-moi, Tristan,
Manon
et Malika. On écoute ça tout de suite.
Voilà. Drogue, substance qui modifie l'état de conscience, stupéfiant. Drogue douce qui a des effets mineurs sur l'organisme. Drogue dure qui engendre un état de dépendance. Péjoratif, médicament.
Donc, qu'est-ce qui est de la drogue, qu'est-ce qui n'est pas de la drogue? Et quelle sorte? Parce qu'il y a plusieurs sortes de drogue aussi.
Mais tout peut être de la drogue. Enfin,
non, c'est oui. Mais non, enfin oui. Non, mais je veux dire, genre pour moi, une drogue, c'est... Tu vois, genre le cannabis, etc. Tu vois, le cannabis, c'est une drogue douce. Après, il y a les drogues dures, il y a l'ecstasy, la coke, etc.
En plus, c'est un peu quelque chose de... Enfin, je comprends qu'ils aient pas mis une grosse dimension parce que c'est un peu quelque chose de tabou.
C'est très tabou.
Genre, tu vas pas en parler à ma famille. Ouais, je me suis fait un gros joint là tout de suite.
Ouais, c'est sûr, mais il y a des choses, par exemple, si on considère que le café, c'est de la drogue, genre, tu vas avoir... C'est vraiment genre les drogues dures, les trucs illégaux. Parce que j'aurais aucun souci à dire que je bois 2 cafés le matin pour me réveiller, mais j'aurais quand même plus de mal à dire que je dois fumer 2 joints pour m'endormir. Quoi. C'est une question d'égalité aussi.
C'est aussi ce qui est bien vu et ce qui ne l'est pas. Hein.
Mm-hmm. Mais tout ce qui est illégal est en général moins bien vu aussi. Hein.
Mais je comprends pas pourquoi on accepte que quelqu'un prenne un Xanax pour se détendre, mais pas qu'il prenne un joint, tu vois.
Ça a été interdit.
Bah oui, c'est comme si je reprends l'exemple
mais
du
avant,
Xanax.
C'était autorisé. Mais maintenant, c'est plus.
Ouais, par exemple, le Xanax, il est prescrit pour les gens qui en ont besoin, mais il y a des gens qui prennent du Xanax comme une drogue, genre à la place de fumer un joint.
Il y a moyen de s'en procurer seulement avec prescription.
Ouais, il faut une prescription.
Je comprends pas pourquoi un médecin prescrit genre un médicament avec plein d'effets secondaires, mais il peut pas prescrire genre tu prends un joint par jour pour te détendre.
Il y en a qui prescrivent ça.
Mais oui, mais enfin, tu vas aller la trouver où ta beu, tu vas aller chez le dealer, tu fais ouais, c'est le médecin qui m'a demandé.
C'est vrai que.
Mm-hmm. Ouais, je sais pas.
Mais je crois qu'il y a des petits magasins. Enfin, à Bruxelles, il y a des petits magasins qui vendent.
Ah, mais peut-être. Ouais, c'est ça aussi. Tu vois, il y a le cannabis, mais il y a le CBD aussi. Mm. Peut-être que ce que les médecins prescrivent, c'est du CBD, tu vois. C'est pas la même chose parce que le CBD. Ça, enfin, c'est la même chose, genre niveau visuel, c'est la même chose que la beuh en général, sauf que il y a pas les effets, il y a juste le goût. Genre ça, c'est ressemblant et il y a le goût, mais il y a pas les effets. Donc peut-être que c'est ça qui prescrit chez moi.
Comme si je comprends pas pourquoi tu peux pas fumer ou vendre du cannabis par exemple, mais tu peux en faire pousser chez toi. Tant que tu fais rien avec, c'est légal.
Ouais, t'as droit à une plante. Et genre, tu peux genre te balader avec 3 grammes sur toi.
Genre qui connaît pas quelqu'un qui a pas une plante de cannabis chez soi, quoi. Pourquoi tu me
regardes
comme ça?
Bah parce que moi pas.
Moi j'en connais.
Ok.
J'en connais plusieurs même.
Oulala. C'est comme aussi ce que j'allais sortir là maintenant, j'allais dire ah bah tu connais des mauvaises fréquentations, tu vois. Alors que par exemple c'est aussi beaucoup un cliché que ceux qui se droguent.
Qu'est-ce qui dit que c'est des mauvaises fréquentations?
Genre voilà. Les gens que je connais sont des personnes très respectables, à part qu'ils vendent quoi, mais sinon c'est des personnes gentilles.
Ouais, il y a beaucoup de clichés aussi, genre dans les gens qui fument, quand ils fument pas, ils sont énervés. Beaucoup de préjugés sur les gens comme ça, en mode c'est des mauvaises fréquentations, les gens ils arriveront à rien dans la vie, alors que. Enfin je veux dire, pour moi un joint tous les jours ça va. Comment expliquer?
Ça va tuer.
Ça...
Ouais. Sur le long terme, ça.
Sur le long terme,
oui. Vachement le cerveau.
Mais je veux dire, je vais pas. Enfin, il y a toujours une chance sur deux que je réussisse ma vie, tu vois, et je pense que c'est pas parce que je fume un joint par jour, tu vois, que je vais rater ma vie.
Quoi. De toute façon, c'est quoi rater sa vie et c'est quoi la réussir, ça, c'est aussi un autre débat.
Ouais, c'est ça.
J'ai vu qu'en Belgique, ils ne prescrivent pas de cannabis, mais aux Pays-Bas. En Italie, en Allemagne, en Finlande, et encore dans d'autres pays américains, ils le font. Enfin, des états américains.
Ah, il n'y a pas encore ça en Belgique?
Je crois pas. Enfin, je vais regarder.
Je sais plus.
Ah bon? Où? Parce que je connais quand même des gens qui se font prescrire ça.
Je sais plus où, mais ils avaient parlé d'ouvrir un centre de... Je crois que c'était en Belgique, mais je suis pas sûre. Genre, ils allaient ouvrir un centre, genre, où t'aurais du cannabis, mais ce serait... Comment dire? Ce serait dirigé, genre ce serait contrôlé, tu vois. Et tu vas là-bas, genre pour prendre et tout, mais. Enfin, je veux dire.
Que ça reste dans le légal, quoi.
Ouais.
Voilà. Merci à nos chroniqueurs. C'est une petite discussion un peu en roue libre. Sur le thème de la drogue. Qu'est-ce que c'est la drogue? Alors peut-être on va quand même demander à. Edgar Schotz de nous dire si ce qui a été dit là est correct, parce qu'on doit quand même faire attention de pas dire des contre-vérités. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, du cannabis en Belgique? Vous avez dit...
Oui, d'un point de vue légal, s'il y avait une chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'il n'y a... Donc, légalement, vous ne pouvez pas faire pousser du cannabis chez vous, et vous ne pouvez pas vous promener ni avec 1 gramme, ni avec 2 grammes, ni avec 3 grammes. Il y a eu pendant quelques années, ce qu'on appelait une tolérance. Donc, c'était toujours légalement interdit. Mais le ministre avait dit au procureur et à la police, ça doit être la dernière de vos priorités. Et donc, en gros, concrètement, vous ne risquiez rien si vous promeniez, je pense à l'époque, c'était 5 grammes, avec moins de 5 grammes de cannabis. Mais aujourd'hui, cette tolérance a été levée. Donc, légalement, vraiment, vous ne pouvez pas. Et voilà.
Clair.
Vous prenez des risques en le faisant. Maintenant, encore une fois, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais la vision que nous avons à Prospective Jeunesse, c'est que cette pénalisation, hein, le fait que ce soit interdit, que vous risquiez d'être arrêté par la police, de passer devant les tribunaux pour une autoproduction de drogue ou pour une consommation de drogue, nous, on pense que ça pose plus de problèmes que ça n'en règle. Pour le dire comme ça, on pense que les drogues ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites. Que cette interdiction, ça, elle provoque toute une série de problèmes, par exemple en termes de qualité du produit. Hein, on peut quand même parler aussi de qualité plus ou moins différente, d'alimentation, de tout un circuit d'économie mafieuse, etc., de difficultés de traitement. Hein, quelqu'un, bah, Pierrot qu'on entendait tout à l'heure, bah, voilà, il boit de l'alcool, il a un problème d'alcool. La police ne s'en mêle pas et donc il peut aller demander de l'aide à un médecin et s'en sortir. Quand vous êtes dans une consommation de quelque chose dont la simple détention peut faire en sorte que vous avez des problèmes avec les forces de l'ordre, ben vous avez plus de difficultés à aller chercher de l'aide parce que comme vous faites quelque chose qui est illégal, c'est pour les gens qui veulent aider ce public-là, c'est plus compliqué. Donc première chose, non, légalement, vous ne pouvez pas. Encore une fois, les risques sont relativement
mineurs. Pour le produit en lui-même, le risque existe quand même. Je veux dire, la drogue
bien sûr.
Quand même a un côté dangereux en elle-même. Ce n'est pas que l'interdiction.
Oui, bien sûr. Mais c'est une espèce de boutade. Ouais. Mais disons que l'interdiction aggrave le risque plutôt que de le réduire à notre sens.
CBD, là.
Oui, CBD, THC. En fait, le CBD, c'est un des composants psychoactifs du cannabis, mais qui est le composant apaisant, calmant. Et vous avez dans le cannabis un composant hallucinogène qui est le THC. Et donc le CBD, c'est la partie non hallucinogène du cannabis, pour le dire comme ça. Et il n'y a pas, en effet, de prescription pour raison médicale du cannabis en Belgique, contrairement à beaucoup de pays où ça se répand et c'est une substance qui est assez connue pour apaiser des douleurs, notamment pour les personnes qui souffrent de sclérose en plaques, etc. Et là, je pense qu'il y a vraiment un mouvement mondial. On voit depuis quelques années qu'il y a énormément d'États dans toutes les régions du monde qui autorise la vente de cannabis pour raison médicale ou qui l'autorise tout court. Et je pense que ça va finir par venir en Belgique aussi. C'est difficile de savoir quand, mais en tout cas, les choses sont vraiment en train de changer. Voilà, c'était les quelques, quelques éléments. Ah oui, et pour ce qui est des endroits où on pourrait fumer du cannabis de manière safe et contrôlée, c'est plutôt ce qui est en train d'être mis en place, donc ça existe déjà à Liège.
Pour d'autres drogues.
C'est plutôt pour l'héroïne. Hein. C'est des salles d'injection, des SCMR, comme on appelle ça, salles de consommation à moindre risque. Et ça concerne plutôt les drogues pour lesquelles il y a des risques vraiment sanitaires associés au mode de consommation. Hein. C'est typiquement, quand vous injectez de l'héroïne, bon, l'héroïne a sa... ces dangers spécifiques, mais il y a le mode d'injection. Si vous le faites avec une seringue usagée, vous augmentez encore très nettement les risques, etc.
Ok, on va faire une petite pause musicale avec un morceau sélectionné par Malika. C'est Anna Sang de Silverchair, un groupe australien qui date déjà d'il y a quelques années. Ça nous rappelle des souvenirs.
Long as you're here, we're not. You make the sound of laughter, and something else seems after. And I need you now somehow. And I need you now somehow. Underneath these
Alors, on est de retour dans Radio Clash avec notre émission sur le thème des dépendances, des addictions. Une vaste question, peut-être un peu plus philosophique. On va passer dans une autre sphère après avoir beaucoup parlé de l'alcool, des drogues. Est-ce que, selon vous, et là, je pose la question à tout le monde, on peut être addict à l'amour avec cette idée que c'est peut-être la première addiction dans laquelle on tombe. On est dans la dépendance totale envers nos parents, quand on est dans la petite enfance, quand le bébé naît. Et puis plus tard, on constate, même dans le développement affectif des uns des autres, que voilà, on a peut-être une dépendance très forte aux autres et à l'amour qu'on espère qu'ils puissent nous donner. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Saskia? Ouais, Manon? Manon, vas-y, commence.
Je pense que c'est un peu compliqué comme question, parce que ne sachant pas très bien ce qu'est l'amour, déjà,
c'est un peu compliqué. On pourrait commencer par faire une émission là-dessus. Ouais.
Moi, je pense que l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment défini. On ne sait pas vraiment le définir avec des mots. Et je pense que c'est personnel. Donc, on peut dire, par exemple, là, je ressens de l'amour pour quelqu'un. Genre, ça vient de nous. Et nous, on pose sur un sentiment ou sur... c'est nous qui posons l'amour sur quelque chose. Et donc, je pense qu'on peut pas être addict à l'amour, mais genre, est-ce que la personne avec qui on pense qu'il y a de l'amour, je pense qu'on est addict à ce que la personne nous apporte et non à l'amour qui est un sentiment, etc.
Et est-ce que c'est, du coup, est-ce que c'est nocif? Est-ce quelque chose qui peut être dangereux carrément, tu dirais?
Oui, je pense que il y a certaines personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions et enfin, des trucs comme ça. Et que oui, je pense que ça peut être fort nocif si on n'arrive pas à gérer ça. Parce que, ouais, enfin, je pense que c'est comme toutes les autres addictions. Mmh. C'est compliqué. Voilà.
Saskia,
Je suis plus ou moins d'accord avec Manon. Je me dis qu'on peut aussi être addict au sentiment d'être aimé plutôt que de donner de l'amour. En fait, certaines personnes plus émotives ou plus sensibles aux mots ou aux actions pourraient être plus facilement touchées par ce que je pense être une addiction. Et je pense que ça touche beaucoup de personnes en dessous de la vingtaine, puisque notre génération a été plus menée là-dedans. Menée dans le fait de trouver quelqu'un assez tôt pour pouvoir former une famille et plein de choses comme ça qui peuvent faire qu'on cherche sans vraiment savoir ce que c'est ou... Enfin, ça peut l'aider dans des amours toxiques.
J'entends le mot toxique, effectivement. Morgane, toi t'en dis quoi?
Alors pour moi, l'amour c'est une addiction. Moi je pense qu'il y a des gens qui savent pas se passer de l'amour, que ce soit parental ou amical ou amoureux. Je pense que on a tous besoin d'amour pour être bien, je pense mentalement aussi. Je pense que sans amour,
c'est une addiction nécessaire.
Ouais. Je pense qu'on en a tous besoin. Je pense que si on n'a pas eu ce truc d'amour, on sera renfermé, on sera mal soi-même, je pense. Donc je pense que l'amour, c'est un besoin.
c'est un besoin. Donc on est plus dans quelque chose qui est comme l'oxygène, comme vous disiez au début, Edgar. Voilà, est-ce que l'oxygène est une drogue? Non, pourtant on en est dépendant, on en a besoin.
Mais qui peut être toxique aussi, hein, ça a été dit. Je vais rien ajouter. Je trouve que c'est très beau ce qui a été dit. Je pense que c'est, en plus, c'est, comme le disait Manon, c'est des expériences tellement différentes d'une personne à l'autre. On le vit de façon tellement diverse que je préfère rester sur votre parole. Que j'aimerais bien être un expert en amour, mais je ne le suis pas.
Manon, tu voulais encore.
Oui, je voulais encore une fois. Enfin, je voulais rajouter un petit truc. Donc, encore une fois, je pense que c'est personnel à chacun et que vu qu'on est tous différents, qu'on peut. Par exemple, d'une relation à l'autre, enfin, il y a des gens qui peuvent ressentir. Mais c'est comme l'amour réciproque, non réciproque, etc. Je pense que pour vraiment savoir ce que c'est l'amour, faudrait qu'on se mette d'accord sur genre, quelles paroles désignent ce que c'est l'amour, quels actes. Enfin, voilà. Mmh. Et du coup, je pense que l'amour, c'est différent pour tout le monde. Et que moi, je peux très bien prendre des gestes et des mots pour de l'amour, tandis que l'autre personne non, donc je pense que c'est compliqué. Voilà.
Ambre, tu veux dire quelque chose par rapport à tout ça?
J'ai pas forcément grand chose à rajouter par rapport à ce que les autres ont dit, mais ouais, je pense que, je sais pas si on peut vraiment dire que l'amour est une addiction, mais je sais qu'on peut. Enfin, je pense qu'on peut être addict à des personnes, que ce soit des amis ou quelqu'un qu'on aime, tout simplement. Parce que plus, il y a des moments où vous avez vraiment, vraiment besoin de voir la personne, vous voulez la voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Et je pense que ça peut être considéré comme une addiction.
Mm-hmm. Une dépendance à l'autre, quoi.
C'est ça.
Ok. Mais donc, ouais, là. J'avais envie de demander comme question suivante, est-ce que du coup les problèmes d'addiction, alors qu'est-ce qu'on entend par addiction? Là on l'a vu d'une façon, le terme d'une façon très très large en posant la question, est-ce qu'on peut être addict à l'amour? Mais si on repense à toutes les addictions, on a parlé des substances, addiction à des substances avant, est-ce que ça concerne forcément tout le monde ou bien seulement des personnes fragilisées ou qui ont déjà des problèmes dans leur vie? Vous pensez quoi? Est-ce que les addictions, après tout ce qu'on a entendu là dans cette émission, qui touche tout doucement à sa fin, est-ce que ça concerne vraiment tout le monde ou seulement certains qui sont peut-être plus fragiles?
Bah, personnellement, je pense que ça peut concerner tout le monde, sachant que y a l'addiction aux écrans déjà aussi. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas forcément besoin d'être mal mentalement ou physiquement pour tomber dedans. Mmh. Mais maintenant, il faut savoir que être plus fragile mentalement peut mener aussi à des addictions qui nous feraient nous sentir mieux, enfin qui nous feraient nous penser nous sentir mieux, alors que ça empire les choses. Donc, ça dépend pas forcément de si on est plus fragile ou pas, mais ça peut influencer. Mmh.
Les autres, Manon, ouais, tu veux.
Moi, je pense que ça peut aussi toucher tout le monde parce que moi, je vois les addictions comme une. Enfin, d'une certaine manière, une expérience. Et donc, je pense que ça existe dans le monde, partout dans le monde, autant l'alcool que la drogue, etc. Et je pense que. Tout le monde peut tomber dedans à n'importe quel moment. Enfin, je pense que c'est aussi du bouche à oreille, on en parle. On sait pas c'est quoi, on veut essayer, etc. Et je pense que ça commence toujours d'une fois, enfin d'une simple expérience, et que après on peut tomber dedans très facilement, quoi.
Mm-hmm. Ambre, tu t'en dis quoi?
Oui, enfin tout le monde peut être addict à quelque chose. C'est pas forcément parce qu'on est mal ou plus fragile mentalement que on est forcément addict. Mais c'est vrai que quand on est mal, on peut avoir une addiction et s'enfermer dedans. Et plus vouloir ressortir parce qu'on pense que cette addiction nous fait du bien. Comme a dit Saskia. Donc voilà.
Mm-hmm. Ok. Edgar, qu'est-ce que... Vous avez déjà dit hein, tout à l'heure que c'était la, je pense si je me trompe pas, la rencontre de, d'un c'était quoi d'un...
Une personne, un contexte et une substance.
Ouais.
Et donc, si on considère que l'addiction, c'est une dépendance problématique, on est tous dépendants. Dépendance, on l'est tous. On a tous des choses dont on est dépendant. Mais il y a des dépendances qui deviennent problématiques. Et à ce moment-là, on appelle ça des addictions. Et donc, c'est une expérience qu'on peut tous connaître, mais qu'on ne connaît pas tous. Et là, en effet, dans cette rencontre de la personne, de la substance et du contexte, il est clair que des personnes qui ont des fragilités, pour utiliser ce mot-là, psychiques, vont être plus facilement amenées à, au fond, dépendre d'une substance qui leur apporte soit du calme, soit de l'énergie, soit enfin, ce qui leur manque dans leur équilibre intrinsèque. Et cette substance qui peut apparaître comme une réponse, typiquement, hein, pour reprendre ce que je disais sur l'alcool qui, si vous êtes très timide, par exemple, en soirée, ça va répondre à un problème, ça va apparaître comme une réponse, parce que si vous buvez un verre, vous allez être un peu moins timide, sauf que la réponse peut s'avérer pire que le problème si vous entrez dans un cercle vicieux. Et là, évidemment, la fragilité psychique, le fait d'avoir un vécu douloureux dans l'enfance, d'avoir peu d'estime de soi, etc., est un terreau très, très favorable au développement des addictions, évidemment.
Ok. Donc, à quel moment on peut dire que quelqu'un est définitivement sorti de son addiction, pour quand même essayer de... Voilà, on peut s'en sortir, quoi.
Absolument.
D'être sur une note positive, Edgar.
Je ne suis pas un expert. C'est au moment où il a retrouvé avec la substance qui était l'objet de l'addiction un rapport sain. Alors, ce rapport sain, ça peut être un rapport d'abstinence complet, hein, comme on entendait Pierrot qui dit l'alcool, moi, je ne veux plus y toucher et si j'y retouche, je vais replonger. Mais ça peut être quelqu'un qui, par exemple, à un moment... avait absolument besoin de fumer un joint pour avant de s'endormir, faute de quoi il avait des insomnies, et qui a retrouvé un sommeil de qualité et fume un joint tous les 6 mois lors d'une fête entre amis. Vous pouvez dire qu'il n'est plus le produit a été remis à sa place dans l'équilibre général de sa vie. Mais donc ça ne passe pas nécessairement par une abstinence totale, mais simplement par, au fond, une diminution de l'emprise de la substance sur votre vie, quoi. La substance n'est plus centrale. Hein, je ne sais plus qui disait ça, c'était peut-être Pierrot qui disait... Oui, c'est ça, qu'il soit un mariage ou un enterrement, en fait, et il le voyait en fonction de sa consommation d'alcool. Là c'est l'inverse exact de ce que je désigne, quoi. C'est qu'au fond, vous pouvez aller à une fête sans vous dire « Ah, chouette, je vais prendre
du cognac,
de l'extra. » Le concept de fête se suffit à lui-même, sans les consommations qui peuvent y être associées.
Ok. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission, d'avoir pu témoigner. Merci encore à Pierrot des Alcooliques Anonymes. Merci à Edgar Schotz, notre invité de Prospective Jeunesse.
Merci à vous.
On se retrouve sans doute l'année prochaine pour la nouvelle saison de Radio Clash. Et d'ici là, on vous souhaite d'ores et déjà un bel été à toutes et à tous. Au revoir.
Au revoir.
C'était Radio Clash, l'émission réalisée par les jeunes de l'Entrelien. Vous pouvez retrouver toutes nos productions sur www.radioclash.be ou sur www.radiopanique.org/émission au pluriel/radioclash.